Extrait des chroniques du hors-temps. Réflexion sur l'échec de la dissuasion de la forêt sombre. Le facteur principal de l'échec de la dissuasion de la forêt sombre fut sans conteste d'avoir élu la mauvaise porte-épée. Néanmoins, cet aspect sera abordé plus en profondeur dans un autre chapitre. Nous nous attarderons ici à reconsidérer les erreurs techniques de la conception du système de dissuasion. Au lendemain de l'échec, la plupart des gens pointèrent tout d'abord du doigt le trop petit nombre de transmetteurs d'ondes gravitationnelles et le démantèlement de 19 transmetteurs sur les 23 préalablement construits. Toutefois, cette réaction ne saisissait pas la vraie nature du problème, car, selon les données d'observation recueillies au cours de l'attaque, une dizaine de secondes avait suffi aux gouttelettes pour traverser la croûte et détruire un transmetteur. Même dans l'éventualité où les 100 transmetteurs du projet originel avaient été édifiés et mis en service, les gouttelettes auraient eu tôt fait d'anéantir le système entier. La clé du problème se trouvait précisément dans le fait que ce système pouvait être anéanti. Les humains auraient pourtant pu envisager un système de diffusion indestructible. C'était moins un problème de nombre de transmetteurs que de lieu d'implantation. On aurait pu imaginer que les 23 transmetteurs ne soient pas déployés sur Terre, mais dans l'espace, soit dans 23 vaisseaux du même genre que le Gravité, et que ces engins soient éparpillés dans différentes régions du système solaire. En cas d'attaque soudaine des gouttelettes, elles auraient difficilement pu venir à bout de tous les vaisseaux. Un ou deux au moins auraient pu s'échapper et disparaître dans les profondeurs de l'espace. Cette option aurait parallèlement renforcé le degré de dissuasion de la forêt sombre, sans avoir besoin de dépendre du porte-épée. Lorsque les trisolariens auraient pris connaissance de ce projet, conscients que leurs forces stationnant dans le système solaire n'auraient pas pu être en mesure de désamorcer en totalité le système de dissuasion, ils n'auraient sans doute pas encouru un tel risque. Malheureusement, il n'y avait qu'un seul gravité. Deux raisons pouvaient cependant expliquer que l'on n'ait pas construit davantage de vaisseaux équipés d'antennes à ondes gravitationnelles. La première était liée à l'attaque des Fils de la Terre contre le transmetteur en Antarctique. Il fallait veiller à se protéger contre un ennemi intérieur. Or, les vaisseaux spatiaux étaient bien plus vulnérables que les stations souterraines, en cela qu'ils comportaient trop de variables incertaines. La deuxième explication était de nature économique. Compte tenu de leur immense taille, les antennes à ondes gravitationnelles devaient occuper la totalité de la coque des vaisseaux. En outre, les matériaux utilisés pour leur construction devaient satisfaire aux exigences de la navigation spatiale, si bien que les composants requis valaient le double de leur prix d'origine. Un vaisseau comme le Gravité avait un coût similaire à celui additionné des 23 transmetteurs terrestres. Enfin, les coques des vaisseaux ne pouvaient pas être rénovées. Quand la corde vibrante en matière dégénérée de l'antenne atteignait la période fatidique de 50 ans, elle devenait inopérante. Le vaisseau n'étant plus capable de diffuser des ondes gravitationnelles, il fallait en construire un nouveau. Mais il y avait une raison encore plus profonde que nul n'avait jamais avancée ou dont nul n'avait jamais eu conscience, et qui était enfoui dans les replis de l'inconscient humain. Les vaisseaux à ondes gravitationnelles étaient trop puissants, si puissants qu'ils effrayaient leurs bâtisseurs eux-mêmes. Si une attaque de gouttelettes ou tout autre incident poussait un vaisseau à ondes gravitationnelles à s'enfuir dans les tréfonds de l'espace, et que celui-ci soit condamné sous la menace à ne plus jamais revenir dans le système solaire, il deviendrait un nouvel âge de bronze ou un nouvel espace bleu, ou peut-être même quelque chose d'encore inconnu, de bien pire. Un spectre redoutable planerait dès lors à tout jamais dans l'espace. Cette peur prenait racine dans celle de la dissuasion de la forêt sombre elle-même. Elle était caractéristique de la dissuasion ultime. Le dissuadé et le dissuadant partageaient une même peur de la dissuasion. Chung Sin se dirigea vers les officiers et exigea qu'on la conduise vers le lieu de l'éruption. Un lieutenant-colonel en charge de la sécurité de la base lui affréta aussitôt deux voitures volantes, une pour l'amener jusqu'au lieu demandé et l'autre pour acheminer quelques gardes qui assureraient sa sécurité. Cheng Xing demanda à A.A. de rester sur place pour l'attendre, mais devant l'insistance de cette dernière, elle accepta à contre-cœur de la prendre avec elle. Rasant le sol, les voitures volantes firent route à vitesse lente vers le nuage de poussière. A.A. interrogea le soldat qui conduisait sur ce qui s'était passé, mais il répondit qu'il n'en savait rien. Le volcan était entré deux fois en éruption à quelques minutes d'intervalle. Il ajouta que c'était peut-être la première éruption volcanique à jamais s'être produite à l'intérieur des frontières de la Chine. Il n'aurait jamais pu imaginer que, sous ce volcan, se cachait l'un des points d'équilibre stratégique de ce monde, une antenne à ondes gravitationnelles. La première éruption avait été provoquée par l'impact de la gouttelette quand elle avait traversé la croûte terrestre. Après avoir démoli l'antenne, elle était ressortie par où elle était venue, causant une seconde éruption. Les éruptions avaient été provoquées par l'énergie cinétique phénoménale libérée par la gouttelette en perforant la croûte, et non par l'éjection de la matière issue du manteau, de sorte qu'elles avaient été de courte durée. À cause de la vitesse étourdissante à laquelle l'appareil ennemi était arrivé, son entrée et sa sortie du manteau n'avaient pu être visibles à l'œil nu. Quelques fosses fumantes naissaient çà et là sur le désert traversé par les véhicules. Des cratères creusés par la lave et les roches brûlantes éjectées après l'éruption. Plus ils avançaient, plus les cratères étaient nombreux. Une épaisse couche de fumée paraissait envelopper le désert derrière lequel on devinait de temps à autre des tamaris en flammes. La présence humaine était rare dans cette région, mais on pouvait remarquer quelques vieilles ruines qui s'étaient écroulées sous l'effet du séisme. On se serait cru sur un champ de bataille après la guerre. Le nuage avait déjà été quelque peu dispersé par le vent et ne se présentait plus sous la forme d'un champignon. C'était maintenant une chevelure hirsute aux pointes teintées de pourpre par le soleil couchant. En se rapprochant du lieu de l'éruption, les voitures furent arrêtées par une patrouille volante qui les contraignit à se poser. Sur l'assistance de Cheng Xin, la ligne de sécurité lui fut ouverte. Ses militaires ne savaient pas encore que le monde avait sombré et, à leurs yeux, Cheng Xin détenait toujours l'autorité d'une porte-épée. Ils refusèrent toutefois de laisser passer A.A. en dépit de ses véhémentes protestations. Le vent était favorable et peu de poussière retombait du ciel, mais cela ne l'empêchait pas d'occulter les rayons du crépuscule, si bien que la terre était baignée dans une obscurité seulement troublée par quelques ombres vacillantes. Cheng Xin marcha une centaine de mètres dans cette pénombre jusqu'à se retrouver à la crête d'une grande fosse. Celle-ci se prolongeait sous la forme d'un entonnoir dont le centre était profond de quelques dizaines de mètres. De grosses volutes de fumée blanche s'échappaient du cratère et on devinait à la lueur rouge foncée du fond que s'y trouvait un lac de lave. Sous le cratère, à une profondeur de 45 kilomètres, l'antenne à ondes gravitationnelles, un cylindre long de 1500 mètres avec un rayon de 50 mètres, suspendu dans un espace vide du manteau grâce au phénomène de la sustentation électromagnétique, avait été réduite en morceaux et engloutie par un magma bouillonnant. Cela aurait dû être son destin. Il n'y aurait pas eu de fin plus juste pour une porte-épée ayant abandonné son pouvoir de dissuasion. Cette clarté rouge au fond de la fosse l'appelait. Un pas et elle pourrait obtenir la délivrance désirée. Elle fixait ce lac de lave pourpre, hypnotisée par les mouvements de ses vagues bouillonnantes, jusqu'à ce qu'un éclat de rire la tire de ses rêveries comme une cloche d'argent. Cheng Xin se retourna. Au milieu des ombres changeantes projetées par les rayons du crépuscule qui perçaient à travers la fumée et la poussière, s'avançait une silhouette longiligne. Cheng Xin ne la reconnut que lorsqu'elle fut toute proche. Intellectra. En dehors de son visage, toujours pâle et gracieux, l'androïde n'avait déjà plus rien de commun avec celle que connaissait Cheng Xin. Elle était vêtue d'un treillis aux couleurs du désert, et les fleurs qu'elle portait autrefois dans les cheveux laissaient maintenant place à des cheveux coupés courts et dégagés. Elle portait une écharpe de ninja autour du cou, et un long sabre de samouraï dans le dos, ce qui lui donnait une allure martiale et téméraire. Pourtant, la féminité extrême qu'elle dégageait autrefois ne s'était pas tout à fait dissipée. Ses mouvements et ses attitudes avaient toujours la douceur de l'eau, mais ils étaient empreints d'une beauté meurtrière. C'était une corde de potence souple, mais mortelle. Même les vagues de chaleur qui jaillissaient du cratère ne parvenaient pas à chasser son souffle glacial. « Tu as pris la décision que nous avions prévue, » fit Intellectra avec un rictus froid. « Ne sois pas trop dur envers toi-même. La réalité, c'est que c'est l'humanité qui t'a choisi, et c'est donc elle qui a choisi cette fin. Tu es peut-être la seule véritable innocente. » Les paroles d'Intellectra émurent quelque peu Chung Sin. Elle n'était pas réconfortée, mais elle devait bien admettre que cette belle diablesse avait le pouvoir de lire dans son esprit. Chung Sin vit A.A. approcher. Elle avait apparemment appris ou deviné ce qui s'était passé. Elle foudroyait Intellectra d'un regard brûlant. Elle ramassa une pierre sur le sol, prête à l'écraser sur le crâne de l'androïde. Intellectra fit volte-face et écarta la pierre aussi facilement que si elle chassait un moustique. A.A. lui lança au visage toutes les insultes qu'elle connaissait et se baissa pour prendre une autre pierre. Intellectra sortit le sabre de son fourreau et repoussa sans peine de son autre main Chung Sin qui se ruait vers elle. De l'autre, elle fit tournoyer son arme qui siffla dans l'air, aussi insaisissable que la pale d'un ventilateur. Quand elle cessa, des mèches de cheveux d'A.A. tombèrent sur le sol. Cette dernière, pétrifiée, rentra la tête dans le cou et resta de glace, sans oser le moindre geste. Chung Sin se souvint qu'elle avait vu ce katana dans la demeure orientale d'Intellectra, au sommet de l'arbre enveloppé par la brume. Il était alors placé sur un reposoir en bois près de la table de thé, à côté de deux épées plus courtes, des Wodao chinois. Rangées dans leur fourreau, ces armes paraissaient si inoffensives. « Pourquoi tout ça ?» murmura Chung Sin, comme si elle se posait la question à elle-même. « Parce que l'univers n'est pas un conte de fées. » Faisant appel à sa raison, Chung Sin admettait que si la balance de la dissuasion avait continué à se maintenir, c'était à l'humanité et non aux Trisolariens que se seraient présentées les plus belles perspectives d'avenir. Mais dans son subconscient, l'univers était un conte de fées, une histoire d'amour. Sa plus grande méprise avait été de ne pas s'être mise à la place de l'ennemi. Chung Sin comprit au regard d'Intellectra pourquoi elle avait été épargnée par la gouttelette. Maintenant que les systèmes de diffusion d'ondes gravitationnelles vers l'espace avaient été mis hors d'état et que les capacités d'amplification solaire avaient été étouffées, le fait que Chung Sin reste en vie ne présentait aucune menace. En allant plus loin, on pouvait même penser que si les humains parvenaient un jour à maîtriser une technique de diffusion cosmique encore inconnue du monde trisolarien, ce qui était hautement improbable, éliminer la porte-épée offrirait à d'autres l'opportunité de mettre la dissuasion à exécution. Cependant, tant que la porte-épée serait vivante, cette possibilité resterait infiniment faible, car tous jouiraient d'un appui et d'une excuse pour fuir leurs responsabilités. Mais quel genre d'appui ? Chung Sin n'était plus une menace, elle était même devenue un bouclier. L'ennemi avait vu clair à travers elle. Elle était le conte de fées. « Ne te réjouis pas trop vite, nous avons encore le gravité !» lança A.A. qui reprenait un peu d'audace. Intellectra fit un dernier moulinet avec son sabre et le glissa avec précision dans son fourreau, puis elle sourit avec mépris. « Petite sotte, le gravité a déjà été détruit 1 heure avant l'achèvement de la cérémonie du transfert. Dommage !» « Sans la zone aveugle des intellectrons, j'aurais pu vous montrer sa carcasse reposant à 1 année-lumière d'ici. » Il apparaissait clair que le complot avait été prémédité depuis longtemps. La date de la cérémonie de transfert de l'autorité sur le système de transmission d'ondes gravitationnelles avait été fixée 5 mois plus tôt. À ce moment-là, les intellectrons qui accompagnaient le gravité n'étaient pas encore entrés dans la zone aveugle, mais les gouttelettes avaient déjà reçu l'ordre d'attaquer le vaisseau humain le jour de la cérémonie du transfert. Je dois partir. Veuillez transmettre tous les respects du monde trisolarien au docteur Luoji. C'était un puissant dissuadant, un grand guerrier. Et si vous en avez l'occasion, faites part à M. Thomas Wade de nos regrets. » Chung Sin leva la tête, surprise. « Vous savez, dans notre système d'analyse comportementale, votre degré de dissuasion oscillait autour de 10%, celui d'un vulgaire ver de terre rampant. Le degré de dissuasion de Luoji atteignait jusqu'à 90%. C'était un cobra prêt à mordre. Quant à Wade... » Intellectra regarda les derniers rayons du soleil couchant derrière la poussière. Ses yeux trahissaient une peur manifeste. Elle secoua vigoureusement la tête, comme si elle essayait de chasser une pensée de son esprit. Wade n'avait aucune courbe. Quels que soient les paramètres environnementaux extérieurs, sa force de dissuasion était bloquée à 100%. C'est le diable. S'il avait été élu porte-épée, rien de tout cela ne serait arrivé. La paix aurait perduré. Nous avions déjà attendu 62 ans et nous aurions dû continuer à attendre un demi-siècle peut-être, ou encore davantage, et à ce moment-là, notre monde n'aurait sans doute plus été en mesure de lutter contre un ennemi aux forces certainement égales aux nôtres. Nous aurions dû nous soumettre. Mais nous savions que les humains vous choisiraient. Intellectra s'éloigna à grande foulée. Après avoir parcouru une certaine distance, elle cria à une Chung Sin et une A.A. qui la regardaient partir sans un mot. « Pauvre vermine, préparez-vous à partir pour l'Australie !»